presque tout le monde ce matin. Bonjour à ceux à qui je n'ai pas adressé mes salutations. Voilà, nous sommes réunis à nouveau ce matin pour à la fois participer de l'amour des uns et des autres, la communion fraternelle et la communion avec le Saint-Esprit. Prions pour remettre ces instants dans les mains de Dieu. Père Céleste, merci parce que tu nous attestes par ta parole que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui crée le vouloir et le faire dans nos vies. C'est toi qui nous donne le désir de louer, de t'écouter, de suivre tes commandements. Seigneur, ouvre nos cœurs vraiment et donne-nous la volonté d'avoir une attitude pure et sans reproche devant toi pour pouvoir recevoir tes enseignements et les mettre en pratique. Merci pour toutes tes bénédictions, merci parce que tu es l'œuvre de toutes choses dans nos vies. Et tout ce qu'il y a de bon dans nos vies, c'est toi qui en es l'auteur. Béni sois-tu encore ce matin, et que nous puissions vraiment recevoir le bénéfice de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien, donc ce matin, dans le cadre de nos études suivies sur l'évangile de Jean, nous allons étudier ensemble le passage qui correspond au chapitre 12, versets 12 à 19. Alors j'ai envie de vous dire que presque tout est accompli, puisque sans le savoir, Emmanuel ce matin traité une partie du sujet de ce message, mais quelque part je dirais que c'est encore une fois conduit par le Seigneur, et même si je reprendrai certains passages et certaines idées, je crois certainement que le Seigneur en veut ainsi pour pouvoir vraiment nous communiquer ce qu'il attend. Bref, rappel du contexte avant de vous faire la lecture. Donc c'est Jésus, et Jésus qui, pour ceux qui s'en rappellent ou qui n'étaient pas là dimanche dernier, se trouve à Béthanie. Donc Béthanie, c'est, souvenez-vous, un petit village pas très loin de Jérusalem, où Jésus s'était arrêté dans la maison de ses amis proches et intimes, Marthe, Marie et Lazare. Et souvenez-vous, c'est ce fameux Lazare que Jésus avait ressuscité pour montrer la gloire de son Père. Donc Jésus est donc à Béthanie, et son but principal, c'est, comme l'a dit Emmanuel ce matin, de se rendre pour la Pâque à Jérusalem, afin d'être glorifié non pas par les hommes, mais par son Dieu, par son Père, et d'y subir le châtiment que nous méritons tous. Alors je vais vous faire un bref récapitulatif en lisant tout d'abord le verset 9 jusqu'au verset 12. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc là, ce texte nous parle que par le miracle de la résurrection de Lazare, beaucoup de Juifs se tournaient vers Jésus et crurent en lui. Je vous fais la lecture du passage que nous allons étudier ce matin. Donc, Jean 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. Et c'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Alors, j'ai déterminé environ deux parties sur cette lecture que je vais vous expliquer. La première partie se situe du verset 12 au verset 16. Un petit peu comme l'explication de la situation. Alors la situation est la suivante. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la foule venue en masse pour la fête de la Pâque, pour Jérusalem, apprend que Jésus se rend lui aussi à Jérusalem. Elle vient donc à sa rencontre pour le reconnaître officiellement comme étant le Messie promis, avec les honneurs dus à sa position de roi des Juifs. Donc là, les Juifs qui, jusqu'à présent, se posaient la question de savoir si ce Jésus était vraiment le fameux Messie tant attendu, par le biais de ce miracle extraordinaire de la résurrection, pour beaucoup d'entre eux, ont vraiment compris que c'était ce Jésus-là qui venait les sauver. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'ils ont compris de quel salut il s'agit ? Eh bien pas tout à fait. Je pense que, d'après ce que les écrits nous disent, ils voyaient ce Jésus plutôt comme le Jésus libérateur, mais pas libérateur du péché, comme il l'est en vérité, mais plutôt le libérateur du joug romain. Effectivement, rappelez-vous le contexte, c'était la grande Rome qui s'était étendue et qui avait colonisé un peu tous ces pays, et le peuple juif à l'époque était sous la domination de l'empereur. Alors il est question de branches de palmiers. Les branches de palmiers que tous ces juifs jetés sur le chemin ont une signification. Les branches de palmiers signifient en fait la victoire, les honneurs, la victoire, ainsi que la paix. Alors on a chanté tout à l'heure Hosanna. Est-ce que vous savez ce que ça signifie Hosanna ? Alors si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Hosanna, ça veut dire sauve maintenant, nous t'en prions. Sauve maintenant, nous t'en prions. Effectivement, il allait les sauver, mais pas certainement de ce qu'il croyait être le joug, non pas les jougs des Romains, mais le joug du péché. C'est un des rares événements que nous lisons, cette entrée triomphale à Jérusalem, qui se trouve écrite dans les quatre évangiles. C'est pour cela que je pense qu'il a une signification importante dans les Écritures. Alors il y a un paradoxe troublant quand même quand on lit ce texte. On voit les Juifs qui acclament leur roi, ils le reconnaissent comme roi, donc ils crient, c'est la fête, c'est certainement les applaudissements, les rires, la joie, les effusions de joie, de cris, de bonheur, ces palmes mises sur la route. Et on pourrait s'attendre, si on ne voyait pas la scène, si on voyait uniquement que le côté juif, le premier plan sur les juifs, on pourrait se dire, oulala, on va voir un roi, un empereur, quelqu'un avec un cortège magnifique, des soldats de partout, des danses, des belles femmes, des parures, de l'or, des ornements, tout ça. Ce qui serait logique. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est tout l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Un homme assis sur un ânon. Même pas un cheval. C'est même pas un cheval. Un ânon. C'est vrai que quand on regarde l'âne, c'est pas sa majesté qui nous saute aux yeux, mais plutôt le côté humble de son apparence. Et Jésus qui entre comme ça, certainement silencieux, regardant les uns et les autres, le roi des Juifs, le Fils de Dieu. Il est intéressant de lire le petit commentaire qui suit, qui explique que les disciples ne comprirent que bien après que Jésus avait accompli cette prophétie. Sur le moment, ils n'ont pas cru grand-chose, ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, quelle prophétie ? C'est la prophétie de Zacharie 9, verset 9, où il est écrit qu'en toute humilité, il serait monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc Jésus, là, accomplit cette prophétie écrite bien longtemps auparavant et qui atteste qu'il est réellement le Messie. Comment est-ce qu'on pourrait retranscrire aujourd'hui cette situation, le côté pratique de notre vie ? Cette situation, c'est quoi ? C'est une attitude, quelque chose de concret. On peut se poser une question par rapport à ce qu'on pourrait vivre. Et l'attestation par la parole. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui naît de nouveau, tout à l'heure Emmanuel a parlé de nouvelle naissance, quelqu'un qui rencontre le Christ, on lui parle de Jésus, sans avoir lu la Bible, comprend le message et décide de le recevoir dans sa vie. Décide de lui donner sa vie, de se repentir et de recevoir la vie en Christ. Je pense que nous l'avons tous vécu, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Des choses changent, des choses changent. Un nouvel amour nous remplit, une joie profonde, le désir de louer Dieu, le désir de lire sa parole, le désir de chercher la communion fraternelle. Et là, on nous offre une Bible et on lit. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre ce qui s'est passé dans notre vie, écrit dans la parole. Et un événement vécu retrouve sa concrétisation et surtout sa vérification comme étant la vérité dans la parole de Dieu. Dans la deuxième partie du verset 17 à 19, on pourrait voir ça comme l'explication des choses. Donc nous avons vu un engouement particulier pour l'arrivée de ce Jésus, pour cette proclamation de la libération tant attendue pour le peuple juif. Et la raison de cet engouement soudain pour ce Jésus qui a fait parler de lui par ses enseignements et surtout ses miracles, parce que Jésus avait déjà accompli pas mal de miracles, on les a vus déjà au travers de toutes les études que nous avons faites, multiplication des pains, guérisons diverses, délivrance d'esprits impurs, etc., etc. Et là, ce qui atteste vraiment de la position de Messie officiel envoyé de Dieu, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Hormis le fait que personne n'était jamais ressuscité, revenu des morts auparavant, pour les Juifs, quel qu'il soit, et notamment les chefs, les grands prêtres, c'était le signe qui ne pouvait pas ne pas comprendre, ne pas accepter. Personne, s'il n'est l'élu de Dieu, s'il n'est envoyé par Dieu, s'il n'est accrédité par Dieu, ne peut ressusciter un mort. Et ce qui est assez étonnant de voir, c'est que les premiers qui auraient dû croire en ce Jésus, l'acclamer, le recevoir avec les honneurs, ne le voient pas, ne le comprennent pas, et même essayent d'étouffer l'affaire. Il est écrit qu'ils voulaient même tuer Lazare. La pièce à conviction, l'effacer l'enlever. Plus de Lazare, plus de preuves que ce dernier a été ressuscité. C'est assez extraordinaire de voir que ces hommes de loi, qui connaissaient les Écritures mieux que personne, ne s'étaient pas souvenus de cette prophétie de Zacharie, comme quoi le Messie arriverait sur le petit d'une ânesse. Ils n'ont pas compris que ce Messie-là, cet envoyé, apportait la paix, l'amour, la victoire sur le péché, dans l'humilité. Au verset 19, nous voyons que cette situation semble même les déborder. Eux qui voulaient sa mort et celle de Lazare, effacer les preuves. L'histoire de l'Église nous montre aussi que les chrétiens, depuis l'origine de l'Église, ont été persécutés. Et que le diable, parce qu'il faut bien le dire comme ça, hein, c'est le diable qui essaye à tout prix d'éviter que cet évangile, cette bonne nouvelle du salut, du pardon des péchés pour les hommes et de la réconciliation avec Dieu, que cette bonne nouvelle ne soit pas proclamée. La volonté du diable d'effacer les preuves de la divinité de Jésus, elle est bien là. On efface les traces, on supprime et le miracle et l'auteur du miracle. Sauf qu'il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu en a décidé autrement. Nous, on le sait, mais eux ne le savaient pas. Même le diable ne le savait pas. C'est étonnant, ça. Hein, vous y avez déjà pensé? Non? Si le diable avait pu penser que par la mort du Christ, nous serions sauvés, l'humanité aurait la rédemption, je ne sais pas si le diable aurait fait tuer Jésus. Honnêtement, je ne crois pas. C'est quand même extraordinaire de savoir que Dieu utilise même des situations qui peuvent nous paraître abominables, terribles, difficiles, atroces. Dieu les utilise pour notre bien. Dieu a utilisé un plan machiavélique, abominable, de Satan pour nous donner le salut. Je pense que Satan a dû fulminer quand il a compris le poteau rose. Je pense qu'il a dû fulminer. Je pense qu'il a dû regretter et se dire « Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?» On ne va pas dire merci à Satan. Hein. Mais en tout cas, Dieu a utilisé son action pour notre bien. D'un mal, il en a fait un bien. Et je crois qu'on peut retranscrire ça dans notre vie de tous les jours. L'Écriture nous dit que Jésus nous dit que si nous le suivons, si nous désirons être ses disciples, nous aurons à connaître les mêmes choses que lui a connues. Les mêmes souffrances, les mêmes angoisses, les mêmes difficultés, les mêmes troubles, les mêmes peurs, les mêmes craintes. La mort, la torture. Et je vous parlais de l'histoire de l'Église, c'est ce qui s'est passé dans les premiers temps, mais ça a perduré. Et encore aujourd'hui, les chrétiens de par le monde sont persécutés et vivent ces choses-là, comme Jésus les a vécues. Je vous parlais tout à l'heure de la chose assez incroyable que les pharisiens, on pourrait dire les pasteurs, les prêtres, les docteurs d'aujourd'hui n'ont pas reconnu Jésus. On pourrait se dire, mais c'est quand même incroyable. De la même façon que des fois, moi, je suis atterré quand je discute avec mes amis qui ne croient pas, de leur dire, mais attendez, mais comment pouvez-vous imaginer, comprendre, croire que tout ça, tout ce qu'on voit, la nature, l'être humain, la complexité, l'univers, soit fait à partir de rien, comme ça, par enchantement, ou même par des milliards et des milliards d'années. C'est pas possible. Vous avez quoi dans les yeux, là? C'est pas possible. Petite anecdote amusante, j'avais lu dans un petit livre, bon, je ne sais plus si c'était une bande dessinée, oui, c'était une bande dessinée, je crois que c'est Oderzé qui avait fait ça, j'avais bien aimé d'ailleurs. Il y a donc un groupe d'amis qui décide d'aller faire une balade dans la campagne, et puis se trouve arrivé à un moment donné dans une clairière, et au milieu de la clairière, il y a une grande nappe avec au centre des victuailles, des couverts, du vin, de l'eau, du pain, du vin, du fromage, de la charcuterie. Et puis un de ceux-là arrive et leur dit « Oh là là, regardez, vous avez vu, c'est le hasard qui a mis ça au milieu du champ. » Et puis ces hommes, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es malade, le hasard, mais n'importe quoi, c'est quelqu'un qui l'y a placé. Non, je vous assure, c'est le hasard. Mais attendez, hein, ça a pris des milliards et des milliards et des milliards d'années. Hein. Et les autres de répondre, ah oui, mais alors si ça a pris des milliards d'années, ah oui, effectivement. C'est amusant, mais quelque part, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi ces hommes de loi, ces chefs des Juifs, ne l'ont pas reconnu? Eh bien, ils ont été aveuglés. Ils sont aveuglés eux-mêmes par leur propre endurcissement de leur cœur. Un peu la mesure de Pharaon à l'époque, quand il ne voulait pas laisser partir le peuple. Et il est écrit dans d'autres passages que parce qu'ils ont endurci leur cœur, Dieu les endurcit au point que s'ils pouvaient comprendre les choses, ils ne le pourraient plus. C'est-à-dire que par l'endurcissement de l'homme, le désir de ne pas vouloir se soumettre à Dieu, parce que c'est ça hein, le cas, hein. Les pharisiens et les chefs juifs voulaient garder la mainmise sur le peuple. Ils ne voulaient pas se soumettre. Eh bien, ils ont été aveuglés et encore plus endurcis. Et c'est leur haine de la vérité qui les a conduits à ce stade. Quelle confirmation cette situation que la parole de Jésus dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre. Souvenez-vous, dans Luc 16, 31, vous vous rappelez cette petite histoire que Jésus avait dite en parlant d'un homme riche, d'un homme pauvre, que l'homme riche vivait dans l'opulence et ne s'occupait pas du pauvre. Et un jour, le pauvre est mort dans vraiment la misère totale. Et puis plus tard, le riche, à la fin de ses jours, décède aussi. Et l'un se retrouve auprès de Dieu et l'autre en enfer. Et là, l'histoire nous raconte que cet homme riche donc parle à Dieu et lui dit « Mais si moi je ne peux pas revenir, je vous fais un petit résumé de l'histoire, puisqu'il ne pouvait rien faire et que l'endroit où il était était de sa faute. Il voulait envoyer quelqu'un dire à ses frères vivants, à sa famille, ses amis, qu'il fallait se tourner vers Dieu. Et là, l'histoire nous raconte que Dieu lui dit, mais je lis le passage, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc là, c'est amusant, parce que quand on lit ça, ça passe un petit peu anodin, mais en fait, c'était une parole prophétique. Jésus est... Alors, d'abord, Lazare est ressuscité des morts, et il ne le croit pas, et ensuite Jésus lui-même. Donc encore une fois, une confirmation dans la parole. Je pense que là, le message aussi est clair, c'est que... On doit, nous, en tant que chrétiens, dans des situations de vie qui peuvent nous poser des questions, nous interpeller, chercher dans la parole si elle s'accorde avec cette dernière. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de toute cette histoire? Une attitude, tout un exemple de vie. Je crois que ce passage-là, alors c'est amusant parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il s'explique en lui-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cette lecture? C'était tellement évident, tout était écrit. Mais en cherchant un peu, il y a beaucoup plus qu'un simple récit de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. En fait, c'est un petit peu comme un résumé de la vie de Jésus et de ce qu'il attend que nous vivions. Tout un exemple de vie. Tout d'abord, l'humilité. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, et nous compris, est resté humble de son arrivée sur notre terre à Bethléem jusqu'à son départ sur la croix à Jérusalem. Et même au point culminant de sa gloire terrestre, au moment où enfin son ministère ressurgit et enfin attesté officiellement, ça y est, son peuple le reconnaît enfin en tant que Messie. Il continue dans cette voie d'humilité. Il ne se laisse pas emporter par les émotions, il ne se glorifie pas lui-même, il reste humble, serviteur de son Dieu et Père. Ensuite, la compassion. Jésus avait un amour si profond pour tous ces hommes qui souffrent, perdus loin de Dieu, qu'il était prêt à subir toutes sortes d'humiliations, de déceptions, même venant de ses amis les plus proches et les plus intimes. La patience et la miséricorde. Sa patience et sa miséricorde envers tous, envers chacun de nous. Imaginez un instant, Jésus, et là, c'est amusant parce que je vois le lien avec ce qu'Emmanuel a dit tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, à la limite, j'ai plus besoin de rien, plus besoin de dire quoi que ce soit. Imaginez un instant, il vous l'a dit, Jésus connaissait la fin de tout cela. Il savait pertinemment que la majorité de ces gens qui l'acclamaient, à cet instant même, se retrouveraient 5 jours plus tard autour de sa croix pour se moquer de lui, pour lui cracher dessus, pour le maudire. Quelles ont pu être ses pensées à ce moment-là? Croisant les regards des uns et des autres. Certainement pas les nôtres. Je pense que si on avait été dans cette situation, en tout cas pour ma part, j'aurais croisé les regards et je me serais dit, mais gens de peu de valeur, insignifiants, vous m'acclamez et demain vous me tuerez. J'aurais certainement eu du dégoût pour eux, comme j'aurais eu du dégoût pour moi, pour ma vie. Quand je fais le récapitulatif de ma vie, je ne suis pas mieux que ces gens-là. J'ai acclamé Jésus et derrière, je l'ai méprisé. Et pourtant ce Jésus a vu plus loin qu'une simple attitude, plus loin que mes erreurs, mes égarements et mes reniements. Il a vu ce qu'il pouvait faire en mourant à ma place, ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Il pouvait me transformer complètement à son image. Ce David, si petit, si méprisable, si faible, ah oui, oui, avec plein de bonne volonté, ah oui, comme Pierre. Pierre, c'est une bonne image, j'aime bien Pierre parce qu'il me ressemble sur pas mal de points et je crois qu'il nous ressemble tous. Oui, Seigneur, gloire à toi, amen, conversion, génial, super, quelle vie merveilleuse tu m'as donnée. Et quelque temps après, difficultés, problèmes, soucis. Oh non, 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 là, ah non, non, je ne peux pas faire ça. Hein. Ah non, puis d'abord, je ne suis pas un saint, et puis moi, j'ai besoin de ça, puis moi, j'ai besoin de ça, puis comment je vais faire? Oh non, écoute, Seigneur, attends, non, plus tard, peut-être demain. Et puis le temps passe, et puis on s'éloigne. Notre cœur s'endurcit jusqu'au jour où Jésus... Ah, non, je vais là-bas. Je pense que quand Jésus a pleuré sur ces hommes, il a pleuré sur moi aussi, il a pleuré sur vous. Mais aujourd'hui, et gloire à Dieu, comme 3 jours après sa résurrection, je vois le fruit de son travail. Parce que si j'étais ce Pierre, ce Céphas, eh bien, aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis ce nouveau Pierre. Et vous êtes la même chose. Dieu vous donne un nouveau nom, une nouvelle identité. Par Christ, il a changé d'une vieille nature corrompue, pleine de faiblesses. Il vous a donné un esprit nouveau et une nouvelle nature qui se révélera pleinement quand on se retrouvera avec lui. Nous sommes faibles aujourd'hui, certes, mais forts en lui. Nous avons des défaites, mais nous avons aussi des victoires qui nous encouragent à aller de l'avant. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Merci Jésus, parce que tu ne m'as pas jugé, parce que quand je suis tombé, tu m'as relevé. Merci Jésus, parce que les désirs de mon cœur à l'intérieur, d'être pur et saint, eh bien tu les as réalisés toi à la croix, et tu me donnes la possibilité de le devenir. Je crois qu'en lisant ces passages, ça nous encourage vraiment à aller de l'avant. Ne pas se sentir coupable quand nous chutons, mais avoir le désir d'être pur et saint devant lui. Oui, nous sommes faibles, oui. Et Dieu le veut ainsi. Dieu veut que nous soyons encore dans la dualité, comme disait Paul, entre notre nature faible qui nous pousse à faire le mal et le nouvel esprit que Dieu a mis en nous qui nous pousse à faire le bien. On a toujours cette dualité qui nous empêche, comme dit Paul, de faire ce qu'on voudrait. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi je vous le dis pour moi, si j'étais déjà dans mon corps de gloire, si j'étais déjà plein de puissance de Dieu, totalement vainqueur en toute chose, il y a de fortes chances qu'un jour je me dise « Mais Dieu, j'en ai plus besoin. » Je me connais, hein, et je crois qu'on est tous pareils. C'est pour ça que Dieu nous laisse encore avec ses faiblesses. C'est pour ça que Dieu nous laisse parfois trébucher, même si quelque part ça nous fait mal, même si ça nous salit. Parce que Dieu veut que nous soyons humbles, que nous restions humbles, que nous comprenions que sans lui, nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais il nous dit aussi, va et ne pêche plus. Il veut que nous soyons forts et victorieux en lui. Alors oui, nous pouvons chuter. Oui, et nous avons le droit de chuter. Dieu ne nous condamne pas pour ça. Jésus a payé le prix pour ça. Mais oui aussi, Dieu veut que nous soyons saints, purs et sans reproche. Dieu veut que nous avancions de victoire en victoire dans la sanctification. Et je crois que c'est ça vraiment qu'il faut qu'on retienne aussi ce matin, c'est qu'on est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon et un Dieu patient à notre égard. Mais c'est un Dieu saint et un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne tolère pas le péché, mais qui aime tellement le pécheur. Je pense que par reconnaissance pure, pour tout ce qu'il a accompli pour nous, on ne peut que dire oui, amen, je cherche cela dans ma vie. Pour nous retrouver un jour avec lui et nous entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je vais conclure en vous lisant un passage dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Ça tombe très bien parce que le chant Hosanna que nous avons chanté correspond exactement à ce que nous avons vu ce matin. Et je peux vous dire que l'écho dans mon cœur était vraiment très très fort. Nous voyons le peuple juif qui acclame sincèrement, hein, sincèrement, mais avec ses faiblesses, ce Messie tant attendu. Et nous voyons que dans la nature, leur nature charnelle, humaine, est corrompue quelque temps après. Ils vont renier ce maître qu'ils ont acclamé. Et alors là, le passage que nous allons lire maintenant rentre vraiment dans une dimension tout autre, puisque cette acclamation de Jésus se fait avec des cœurs renouvelés. Et il y a un esprit pur et sans tache de reconnaissance à l'œuvre du Seigneur. Je lis Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, comme ce jour-là, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ça vous rappelle les choses, hein ? Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et je crois vraiment qu'un jour nous nous retrouverons tous là-bas, tous ensemble, et que nous chanterons, proclamerons les mêmes choses. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Sauveur Jésus-Christ, et que toute notre louange et notre reconnaissance lui soient données. Amen.